Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jeotard, le 26 mai 1988.
Je ne reviens pas sur Plotin avec le trimestre avant. Je voudrais quand même terminer avec vous le point de vue de la relation. Je vais tout de suite, je m'excuse pour Avicenne, je vais tout de suite regarder saint Thomas. En raison de la révélation du mystère de la très sainte Trinité et de la création, la réflexion théologique avoir recours d'une façon très particulière à la relation et au relatif, et même en approfondir le sens, en affiner le sens, je dirais. Ben, c'est toujours la même chose, c'est que la théologie permet de fait à saint Thomas, dans la lumière de la foi, purifier les rationes. C'est la raison de relation qui va être poussée jusqu'au bout. C'est particulièrement net dans ce domaine de la relation. C'est très curieux. Si on essaie de regarder un peu Aristote et Thomas d'Aquin, la précision, la pénétration théologique à propos de la relation va être beaucoup plus nette que la pénétration à propos de la substance. Ce serait très intéressant, du reste, à regarder ça et à se demander pourquoi. Et quand vous faites l'enquête sur la substance, on l'a faite. On voit que saint Thomas se sert de la substance énormément. Mais certains aspects de la substance, c'est-à-dire les différentes manières dont la substance a été regardée par Aristote, les catégories, et la métaphysique sont quelquefois regardés un peu en continuité. La ratio substantiée est beaucoup moins, je dirais, beaucoup moins raffinée que ce que nous allons voir maintenant vis-à-vis de la relation. Vis-à-vis de la relation, il y a nettement un affinement. C'est dans la même ligne. C'est pas une nouvelle conception de la relation. Non. C'est quelque chose de beaucoup plus précis que saint Thomas va nous donner. Et ceci, je crois, en raison même du mystère de la création et du mystère de la très sainte Trinité. On cherchera à montrer pourquoi la relation peut être attribuée à Dieu, aux trois personnes divines, et comment elle peut aider à expliciter le mystère de la distinction des personnes divines, le mystère de l'union hypostatique, et la dépendance de la créature à l'égard du Créateur. Saint Thomas est sûrement, alors là c'est très très net, l'un des théologiens qui ont contribué le plus à une analyse métaphysique de la relation, une vision de sagesse de la relation, en se servant du reste de ce que Aristote et Avicenne avaient commencé à élaborer. Relevons par exemple, dans le contrat Gentilès, ce passage où saint Thomas rappelle explicitement les doctrines d'Aristote. Les relatifs sont ceux qui, selon leur essai, Aristote dit « toeinain », selon leur essai, se rapportent en quelque manière à un autre, comme le dit le philosophe dans les catégories. Alors, nous avions vu que ce passage dans les catégories est particulièrement significatif. Le passage du legein au toeinain. Ce qu'Aristote fait d'une manière nette pour le relatif, et qu'on ne voit pas pour les autres, pour les autres catégories. Oui, saint Thomas tout de suite, ce qui montre combien saint Thomas tout de suite saisit ça, ce point de vue particulièrement intéressant des catégories par rapport au relatif. Il cite tout de suite ce point de vue-là. Et encore, la raison propre, oui, ratio proprié, la raison propre de la relation consiste en ce qu'elle est vers un autre. C'est le had, c'est le pros, qu'elle est vers un autre, le prosti. Alors on met en pleine lumière le prosti. D'autre part, remarquez bien que saint Thomas parle toujours de relation. Aristote, c'était toujours le prosti. Saint Thomas se sert de la relation pour expliquer ce qu'est la science et d'une autre manière, ce qu'est le chibilé. Ce qu'Aristote avait déjà fait, mais saint Thomas va l'expliciter. Ce qui peut être su au vu de la science, le chibilé. Alors il nous dit la relation que comporte le nom de science désigne la dépendance de notre science à l'égard de ce qui peut être su, le chibilé. Le chibilé spécifie la science. Alors, en tant que le chibilé spécifie la science, il y a une relation entre la science dépendante du chibilé. Bon, science et chibilé se tiennent. C'est pour ça que saint Thomas dira que la diversité des sciences se prend de la diversité du chibilé. Et pour qu'on puisse affirmer qu'il y a une nouvelle science, il faut découvrir un nouveau principe. Chibilé, au sens le plus fort, puisque le principe, c'est le chibilé katoto, pris dans son évidence. Quant au chibilé, dit saint Thomas, il se dit relativement, non pas parce que lui-même se rapporte, refertur, à autre chose, en vue d'une certaine relation existant en lui, mais parce que quelque chose d'autre, la science, se rapporte à lui. Vous voyez bien, donc on a la science dépendante du chibilé, le chibilé se dit relativement parce qu'un autre est dépendant de lui. Vous voyez très bien ce double mouvement, et c'est très intéressant à bien préciser, ce qu'Aristote évidemment n'a pas précisé. C'est dans Aristote, c'est précis dans Aristote, mais c'est explicité dans saint Thomas. Saint Thomas se sert aussi de la relation pour expliquer ce qu'est l'amour. Aimer se dit relativement et essayer se dit absolument. Aussi très important. Ce qu'est la volonté a un double regard vers respectum ad, respectumad le voulut, comme pour le chibilé, ce qui est l'appétit naturel, rapport au bien, ordre vers, ordinatio. Là, vous avez le respectum ad et l'ordinatio. C'est pas la même chose. On verra ça. Là, je constate, hein, tout simplement, je prends quelques lieux forts et importants. Et quand il s'agit de la relation, je vous renvoie à Krempel dans son étude sur la doctrine de la relation chez saint Thomas. Il a rassemblé, c'est l'intérêt, il a dit qu'il avait fait ça en 9 ans pour enfanter son enfant. Il le dit, vous savez, je le répète, parce que je l'ai lu très à fond, Krempel, et j'ai dû en faire la relance, la recension. C'est très intéressant comme compilation. Mais il ne faut pas le suivre. Il y a des choses intéressantes. Donc Krempel, dans son étude sur la doctrine de la relation chez saint Thomas, a rassemblé la plupart des textes de saint Thomas. Utilise, dans la plupart des textes où saint Thomas utilise la relation en théologien, l'interprétation que Krempel donne de ces textes peut prêter à la critique, car il veut prouver une thèse. Toujours le danger. D'autre part, on aurait souhaité que Krempel, dans ses analyses, respecte davantage la genèse de la notion de relation chez saint Thomas, car on s'aperçoit vite que ce que saint Thomas dit dans ses premières œuvres, par exemple, dans son commentaire des sentences, n'a pas la même précision que ce qu'il affirme dans ses œuvres ultérieures. Krempel, du reste, l'a senti à propos de la distinction des relations secundum esse et secundum dici, puisqu'il prend soin de citer les textes qui les concernent selon l'ordre chronologique. Malheureusement, cette énumération ne s'accompagne d'aucune analyse portant sur la signification des variantes présentées sur ces textes. La relation secundum dit SC et secundum dit C. C'est un terme technique de saint Thomas qu'il faudra bien préciser. Voyez, le to einai d'Aristote et le legein qu'on retrouve, ça qui est intéressant, mais transposé, pas tout à fait le même. On verra ce que c'est. Je vous le dis tout de suite parce que c'est quand même un des aspects très importants. Alors la thèse de Krempel est celle-ci. Que dans la scolastique, et prend là surtout Jean de saint Thomas, dans la scolastique, on distinguera, on parlera de la relation prédicamentale et la relation transcendantale. Et Krempel veut montrer que cette distinction que les scolastiques prennent est une distinction qui vient de Don Scott et n'est pas du tout thomiste. Donc c'est une attaque intéressante sous ce point de vue-là. Il met en lumière que cette distinction-là provient de Don Scott par un intermédiaire qu'on a cru thomiste. Il y a toute une réduction intéressante. Alors, relation prédicamentale et relation transcendantale, qu'est-ce que ça veut dire chez les scolastiques? Puisque le mot relation transcendantale n'est pas chez saint Thomas. Ça jure un peu, hein. Qui dit transcendantale dit au-delà des catégories. Ça transcende les catégories. Pour saint Thomas, c'est toujours ce qui transcende les catégories. Ce qui même transcende les genres. Ce qui est analogique. Tandis que prédicamentale, relation prédicamentale, reste quelque chose qui est dans une catégorie. Donc ceci, c'est le langage de Jean de Saint-Thomas. Jean de Saint-Thomas enseignait à Salamanque quand Descartes était à Paris. C'est intéressant. Parce que Jean de Saint-Thomas est un des grands scolastiques. Sûrement. C'est bon de lire du Jean de Saint-Thomas. Parce que c'est sûrement un des très grands scolastiques. Ben, c'est très vrai, il est scolastique. C'est-à-dire qu'il est thomiste, si vous voulez. Ce n'est pas encore la décadence absolue. Il lutte très fort contre Ockham et contre Suarez. Il montre bien que Suarez n'est pas thomiste, dans le sens propre. Alors, relation prédicamentale, c'est la relation tout simplement. La relation transcendantale, c'est quoi? C'est, par exemple, la puissance est ordonnée à l'acte. Entre puissance et acte, il y a une relation, et une relation transcendantale. Parce que la puissance ne peut se définir que par l'acte. Si la puissance ne peut se définir que par l'acte, ceci veut dire que la puissance est dépendante radicalement dans tout ce qu'elle est par rapport à l'acte. Donc, relation transcendantale. Elle est ad. Mais ce n'est pas ad, c'est un ordre. Vous voyez, on pourrait dire que la relation prédicamentale, c'est un ad pur. La relation transcendantale, c'est un ordre qui implique donc nécessairement autre chose que l'ad. L'ordre de la puissance vers l'acte n'est pas seulement ad, c'est quelque chose de plus. C'est la puissance qui ne peut se définir comme telle que par l'acte. On verra ça progressivement. C'est intéressant de voir ça tout de suite. Oui. Oui, oui, oui. C'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. Mais ça, prenez, c'est toute la différence. C'est pour ça que c'est très délicat. C'est une question très, très délicate. La relation pure et la relation transcendantale, c'est la différence entre le relatif et la relation. La puissance est relative à, mais elle est plus que la relation. Le relatif qualifie un sujet qui implique la relation. Toute relation transcendantale implique un ad, mais est plus que l'ad. Tandis que la relation pure veut dire uniquement l'ad. Et quand j'efface, je ne veux pas dire que l'ad est extrinsèque. L'ad est dans l'ordre. Il n'est pas à l'état pur, c'est relatif. C'est le début de ce qu'Aristote prend comme définition du relatif. Et à un moment donné, Aristote réfléchit sur le to einein, l'être du relatif. L'être du relatif, c'est la relation. Blanc, blancheur. Mais relatif, relation. On verra ça progressivement. C'est sûrement un des sujets très importants et difficiles dans saint Thomas. Et c'est vrai que saint Thomas emploie tout le temps relation. Je veux dire, regardez Krempel, c'est intéressant à voir toutes les citations qu'il donne. Mais c'est un livre qui demanderait d'être entièrement repris. Donc si parmi vous, il y en a qui beaucoup de courage, il pourrait reprendre tout Krempel dans une perspective qui serait beaucoup plus juste. Parce que quand on veut prouver une thèse, on n'est pas tout à fait juste. Saint Thomas se sert aussi de la relation pour expliquer donc ce qu'est l'amour, ce qu'est la volonté. Alors il y a ce double aspect. La volonté a un double regard, le respectum ad, vers le voulu, ce qu'est l'appétit naturel, rapport au bien, ordre vers. Ce qu'est la puissance, toute puissance, de par sa raison même, comporte un ordre vers quelque chose. Ordinaire, ordinem ad aliquid. La relation précise aussi la signification de certains noms, comme celui de père et fils, maître et serviteur. Elle entre dans la définition du pronom, dans celle de la grandeur, parce que le grand se dit de façon relative, comme on le voit dans les catégories. Il est dit ici que la grandeur de la, il est dit ici que la grandeur de la dépense se prend par rapport à quelque chose d'autre. C'est ce qu'il a dit, ce qu'Aristote avait dû a dit. Grandeur implique toujours une relation vers quelque chose d'autre. C'est la quantité plus le respectum, le regard vers. Le tout se dit par relation aux parties. Quant au premier, il comporte une certaine relation et de même le plus élevé, le maxime étalé. Le summum. Autrement dit, si on est attentif au langage de saint Thomas, on voit que constamment, il emploie des termes relatifs. C'est constant. Du reste, analysez le langage humain, vous verrez que la relation est tout le temps présente. J'allais dire que dans le langage, qu'est-ce qui est le plus présent? C'est le relatif. Pour une philosophie du langage, la relation est au cœur. Parce que la relation est au cœur du langage. La relation n'est pas au cœur de l'être, mais au cœur du langage. C'est pour ça qu'une philosophie du langage sera nécessairement une philosophie de la relation. Et si vous n'allez pas plus loin que le langage, le relatif devient le noyau fondamental. Et ça, c'est intéressant de le noter dans la philosophie de saint Thomas. Quand vous lisez saint Thomas, relevez tout ce qui implique le relatif et la relation. Ordo, respectum ad, tout ça, c'est tout le temps quelque chose qui est relatif. La relation est réelle en raison de ce qui la cause. Exeo quod relationem causat. Très, très curieux. Vous ne dites jamais ça de la substance. La substance est réelle par elle-même. Katoto, per se. Tandis que saint Thomas dit, la relation est réelle en raison de ce qui la cause. Exeo quod relationem causat. qui montre que la relation n'a pas d'exister par elle-même. Ce qui montre que la relation peut se séparer de l'exister. On a une relation de raison. Tandis que vous n'avez pas une substance de raison. Donc, il s'agit de comprendre pourquoi vous dites relation réelle, relation de raison. Donc, la relation comme telle est au-dessus du réel et de la raison. Ça, c'est unique. Aucun prédicament n'est comme ça. Alors pourquoi ? Vous ne pouvez pas dire substance réelle, substance de raison. Vous dites que la substance subsiste. Ah, vous allez me dire, mais pour tous les prédicaments, est-ce que vous parlez du blanc de raison ? Est-ce que blancheur, ce n'est pas le blanc de raison ? Hein ? Abstraction formelle, passage du blanc à la blancheur. La blancheur n'existe que dans l'intelligence. Donc, c'est bien une relation de raison. Donc, vous avez des qualités de raison. Blanc est une qualité. Blancheur n'existe que dans l'intelligence, en raison de l'abstraction. Blanc existe bien dans le réel. Le blanc du mur. Vous ne pouvez pas dire la blancheur du mur. La blancheur n'existe que dans l'intelligence. Alors, quelle différence y a-t-il, vous voyez, entre substance réelle et substance de raison ? Ça, vous dites non, pas de substance de raison. Puisque la substance subsiste. Ce qui montre qu'il y a un ordre essentiel de substance et exister. La substance existe. Entre relation et exister, il n'y a pas une relation absolue. Il n'y a pas un lien absolu, puisqu'il peut y avoir une relation de raison. Entre blanc, puis-je dire blanc, réel. Le blanc existe. Le blanc existe en fonction du mur. C'est le mur qui existe. Et le blanc existe grâce au mur. Donc, c'est par le mur que le blanc existe. Pas directement par lui-même. Le blanc ne subsiste pas. Comme toute qualité, le blanc est une qualité. Les qualités inhèrent ne subsistent pas. Les qualités sont des accidents et donc n'existent que par le mur, que par le sujet. Mais puisque par l'abstraction formelle, je dis blanc, blancheur, blancheur n'existe que dans l'intelligence. Est-ce que ce n'est pas la même chose de dire blanc et blancheur, de dire relatif, relation ? Puis-je dire que le relatif est un relatif de raison ? Non. La relation peut être de raison. Alors, quelle différence y a-t-il ? Posez-vous la question. Quelle différence y a-t-il entre relation réelle et relation de raison ? Bon, la relation réelle, c'est l'ami est relatif à son ami. Relation de raison, c'est l'être de raison. c'est l'universel. L'universel est un être de raison, relation de raison. Quelle différence est-il ? Je pose la question, hein. Parce que dans saint Thomas, tout ça est présent. Tout ça est présent. Saint Thomas pense que toujours qu'on est très intelligent et il ne s'arrête pas. Moi, je m'arrête. Ici, je prends trois cas qui existent dans saint Thomas. Relation réelle, relation de raison. L'opposé, ce qu'on a dit, la substance et la relation, c'est ce qu'il y a de plus antithétique. Substance réelle, substance de raison. Substance de raison n'existe pas. Ce serait la substantialité de Hegel. Chez Hegel, oui, la substantialité. C'est une substance de raison. Mais pas chez saint Thomas. Puis, vous avez blanc et blancheur. La blancheur n'existe pas. Donc, c'est une blancheur de raison. Quelle différence y a-t-il entre une qualité formalisée comme blancheur et la relation ? Pouvez-vous parler d'une qualité de raison ? Alors qu'on peut parler d'une relation de raison. Ça, c'est... Il faut réfléchir là-dessus. Dans son premier livre, dans les...
Son premier livre.
Commentaire des sentences.
Oui, je crois. Là, il parle de que l'homme, à propos de la qualité et de la raison, il parle que le blanc est accidentel à l'homme.
Oui, tout à fait.
Mais le pierre est blanc. Blanc pierre. N'est pas accidentel à pierre.
Alors, ah oui, pierre est accidentel. Blanc est accidentel à pierre.
Alors, dans son premier livre, il
vous montrerez le lieu. C'est-à-dire que blanc existe dans homme, dans pierre. Et par le fait même, je peux dire pierre et blanc, il y a identité entre les deux. Blanc existe dans l'homme, dans pierre. Mais blanc reste toujours un accident. C'est pas essentiel à homme d'être blanc. Vous voulez me dire que c'est la propriété de pierre d'être blanc. Et donc, il y a un lien de nécessité.
Mais il parle de substance d'accident. C'est ça du mal.
Reprenez, dites un peu.
Que, oui. L'homme, il peut être noir comme il peut être blanc.
Oui.
Alors, il dit que blanc, c'est accidentel à l'homme.
Oui.
Mais pierre, il est blanc.
Ah oui, oui, oui. Blanc, oui, oui. C'est un tas de faits. Oui. Tandis que homme est pris dans toute son universalité. Donc c'est une division de homme. Tandis que pierre, c'est un fait. Donc, puisque pierre est un fait, il est blanc ou noir. Il est blanc et ainsi de suite. C'est un fait. Donc, à ce moment-là, c'est considéré comme quasi une propriété. Mais ça reste toujours quand même un accident. Puisque ça ne définit pas pierre. Pierre, substance première, homme, substance seconde. Vous ne direz jamais que blanc est une substance seconde. Oui. Donc il faut voir tout le contexte dans lequel saint Thomas dit ça. C'est la différence entre l'attribution, vous voyez, qui peut être une attribution d'un fait existant, alors qu'il est une quasi-propriété. Ou au contraire, l'attribution qui est vraiment regardée accidentellement. Non, ici, ce qui m'intéresse ici, vous voyez, c'est pour mieux comprendre cette petite division de saint Thomas entre relation réelle et relation de raison. Et comprendre que l'abstraction formelle, qu'on a vu déjà plusieurs fois, blanc, blancheur, fait que blancheur n'existe comme tel que dans l'intelligence. Vous n'avez jamais vu la blancheur en dehors de votre réflexion formelle. Quelle différence y a-t-il entre blancheur et relation de raison? Il y a quelque chose de semblable et il y a quelque chose de différent. Alors, j'aimerais que vous découvriez le quelque chose de semblable et le quelque chose de différent. Je ne résous pas maintenant. J'aimerais que vous y réfléchissiez. Parce que c'est intéressant, ça. Oui, toute division nous permet de creuser et de comprendre la raison première. Je divise la relation en relation réelle et relation de raison. C'est quand même très intéressant cette division. Exactement comme ici. Je divise relation en relation prédicamentale et relation transcendantale. Cette division est-elle légitime ou n'est-elle pas légitime? Je divise la relation en relation secundum esse, secundum dici. Donc vous avez, voyez, 3. 1, 2, 3. Trois divisions de la relation. C'est intéressant de voir si ces trois divisions, d'abord, est-ce que 3 se ramène à 2? Et si ces deux divisions, relation réelle, relation de raison, relation secundum dici et secundum esse, est-ce que ça exprime quelque chose d'autre dans la relation? Chaque fois que vous êtes en présence d'une division, il faut essayer de creuser cette division. Parce que la division est l'instrument par excellence de l'intelligence qui analyse. Je divise pour analyser. Et je divise pour enlever une confusion. Et chaque fois que je divise, normalement, je clarifie. Si je comprends la division. Si je ne comprends pas la division, ça ne clarifie pas et ça maintient la confusion. C'est pour ça qu'il faut se demander, à la suite de Krempel, si relation prédicamentale et relation transcendantale est juste, est-ce qu'elle est selon l'esprit de saint Thomas? Ou au contraire, n'est-elle pas selon l'esprit de saint Thomas? Y apporte-t-elle un élément tout à fait étranger? C'est ça l'intérêt d'une topique, voyez? C'est que je me trouve en face de certaines expressions qu'on répète, mais qu'on ne réfléchit pas. Le thomisme a répété relation prédicamentale, relation transcendantale. Jusque Garrigou-Lagrange. Est-ce que cette distinction est juste? Krempel dit non. Je ne vais pas suivre aveuglément Krempel parce que je n'ai pas... Je ne vais pas le suivre aveuglément, je dois réfléchir. Mais il pose un problème. Alors je continue avec saint Thomas. Ça, c'est très important ce que dit saint Thomas ici. La relation est réelle en raison de ce qui la cause. Ex eo quod relationem causat. En effet, quand en quelque chose se trouve quelque chose de réel, par quoi il dépend d'un autre et se rapporte à lui. Nous disons alors qu'il se rapporte ou dépend ou se réfère réellement. La relation réelle exige en effet la distinction des réalités, car elle requiert deux extrêmes en acte entre lesquelles elle s'exerce, alors que le même ne ne se rapporte pas à lui-même selon une relation réelle. Quand vous parlez de l'identité de quelqu'un par rapport à lui-même, on parle toujours de son identité, on a perdu son identité. Le prêtre a perdu son identité. Ça a été dit ceci constamment. La perte d'identité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question de relation. Et vous voyez l'expression de Satama ici. Le même, c'est identique, ne se rapporte pas à lui-même selon une relation réelle. Donc l'identité, c'est une relation de raison. Donc la perte d'identité, c'est pas très grave. Je perds une relation de raison. C'est très très joli ça, cette affirmation de saint Thomas. Oui, ça enlève un faux problème. Saint Thomas nous dit dans Prima Pars, question 42, article 1er, ad secundum, idem ad se ipsum non refertur aliqua relatione reali. La relation d'identité n'est pas réelle, mais seulement de raison. Il dit ça dans son commentaire de métaphysique. Très intéressant. Donc vous voyez là, la relation de raison qui divise le même en deux. C'est l'intelligence qui fait ça. La relation requiert un fondement. C'est le seul accident qui requiert un fondement. Et c'est ça qui va vous donner la solution. Je vous mets sur la piste. C'est ça qui va vous donner la solution pour comprendre la différence entre relation réelle, relation de raison, blanc-blancheur. C'est que la relation comme telle, le relatif, implique un fondement. Pourquoi ? Parce que la relation est réelle en raison de ce qui la cause. Je ne dirais pas ça de la qualité. Je dis que la qualité est réelle en fonction de son sujet. Et c'est pas commode, hein, mais c'est très très important de bien distinguer relation réelle, relation de raison. Parce que c'est à partir de cette confusion que Occam confond métaphysique et logique. Et c'est pour ça que c'est la relation, le relatif, qui est le lieu de confusion entre métaphysique et logique. Puisque relation de raison fonde toute la logique. Relation de réel, je ne dis pas que ça fonde la métaphysique, mais ça fait partie de la philosophie première. Parce que ce qui fonde la métaphysique, ce n'est pas le relatif, ce n'est pas la relation, c'est la substance. Alors, la logique regarde la relation de raison. Qu'est-ce qui spécifie la logique ? Relation de raison, l'universel. Donc, si je ne comprends pas ce qui caractérise cette distinction relation réelle, relation de raison, j'aurai toujours cette tentation occamienne de ramener la philosophie première à la logique. Ce qu'a fait la logique, ce qu'a fait la scolastique décadente. Et les dents des petits-fils en sont agacées. C'est extraordinaire, ça. Ça a l'air de rien. C'est pour ça que je pose le problème, parce que je veux que vous le découvriez vous-même. Si je le dis, ça passe. Tandis que si vous le découvrez vous-même, ah, c'est autre chose. Et c'est pas si commode, hein. Réfléchissez bien là-dessus. La Je vous mets sur la piste ici. La relation requiert un fondement, une cause, un sujet. Car elle a laissé excomparationner ad illud, qui inest. Ça aussi, c'est intéressant. Et c'est très intéressant à bien regarder ça. Saint Thomas dira, dans le Quod Libet, relatio non habet esse naturale, nisi ex hoc quod habet fundamentum in re. C'est le fondement qui lui donne son essai.